se couper de l'inhumanité. Antilles-sur-Léman, 10 km. Le but approche. Je suis finalement descendu du train à Bourg-en-Bresse pour raccourcir le trajet en voiture. Le type de l'agence de location de véhicules ne voulait pas que je le paie en espèces pour des histoires d'assurance. Je lui ai dit que j'avais perdu ma carte bancaire. Il a fallu que j'insiste lourdement, que je lui affirme que c'était urgent et important pour moi d'avoir cette voiture. Il a fallu aussi que je m'assoie quelques instants en me tenant le ventre pour qu'il accepte enfin. Et je n'ai même pas eu besoin de jouer la comédie. J'avais vraiment mal. Une grosse contraction. J'ai programmé le trajet sur le GPS intégré et je me suis laissé guider. Auparavant, j'ai écouté les messages déposés sur mon téléphone, que je n'avais pas entendu sonner, puisque je m'étais endormi profondément sur une bonne partie du trajet, après la scène des spermatozoïdes sur la vitre. De toute façon, je n'aurais pas répondu. J'ai décidé de ne pas répondre. Pas pour l'instant. Laurent, 3 messages. Il est en colère. Une colère froide. Il ne hausse pas le ton, mais me menace. Me somme de rentrer immédiatement. Me dit que je ne suis plus une gamine et que toute cette comédie a assez duré. C'est vrai. Yvette, notre femme de ménage, qui s'étonne de ne pas me voir à la maison comme prévu. Je la rappelle immédiatement, brièvement, pour lui demander si elle peut prendre Lisette, ma petite chatte, car je serai absente quelques jours et nous savons pertinemment toutes les deux que Laurent ne s'en occupera pas. Il serait capable de la laisser mourir, voire de la tuer, comme dans Liaison fatale. Il déteste les chats. Il n'en voulait pas. Mais là-dessus, je n'ai pas lâché. Une des rares choses sur lesquelles je n'ai pas lâché. J'ai toujours vécu avec des chats et j'ai besoin de leur ronronnement pour me ressourcer. J'ai besoin du spectacle de leur liberté pour ne pas nier la mienne. Ça n'a pas suffi. J'ai nié ma liberté d'être. Mais je sens qu'elle revient. Je la sens qui remonte avec la force d'une vague puissante, moi qui faisais la planche sur ma vie pour ne pas couler. Une grosse déferlante qui m'a retournée, secouée, cognée contre le rocher. J'aurais pu mourir. Mais puisque je suis encore vivante, je vais nager jusqu'à la plage et fuir le requin. L'odeur du sang l'a excitée. C'est l'odeur de ma vulnérabilité qui l'excite depuis des années. Roméo. Un seul, mais long message, où il dit s'inquiéter pour moi, me demande où je suis, me dit qu'il a été touché par ma lettre, me demande de prendre bien soin de moi et qu'il pense très fort à Célestine. Des larmes reviennent quand je l'entends prononcer son prénom. Ses pensées pour elle concrétisent sa présence au monde et surtout son absence. Malou me dit qu'elle m'aime. J'efface les messages et je coupe mon téléphone. J'ai besoin de silence. J'ai dit à Yvette que j'allais bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Et surtout, qu'elle s'occupe bien de Lisette. À l'entrée du village, je ressens une forme d'apaisement, avec une pointe d'excitation. Je revois tous les moments passés avec la bande à faire les 400 coups derrière l'église, les soirées à fumer et à boire quand nous étions adolescents sur la petite plage de cailloux. Les baisers échangés avec Alexandre sur le bateau au milieu du lac. Les virées avec Babette dans la montagne. Je me rappelle toutes ces choses simples et anodines qui restent pourtant gravées dans ma mémoire, parce qu'elles ont eu lieu à un moment crucial de la vie, celui où l'on découvre ce que c'est que d'exister par soi-même, pour soi-même, et où l'avenir se dessine, à la fois angoissant, terrifiant et si attirant. Alexandre est un vrai ami. La première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons su qu'il y aurait quelque chose d'intense et que ce serait probablement solide entre nous. Il avait suffi de se côtoyer un été. Et les dés étaient jetés. On avait 13 ans, l'âge des promesses pour la vie qui ne dure qu'une saison. Mais il y avait cette vibration dans le cœur, cette étincelle dans les yeux, qui donnait à ses serments un goût de certitude. Je le voyais tous les étés. Si nous avons eu quelques moments incestueux, il a toujours été comme un frère pour moi. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pêcheur sur le lac. Il a suivi la voie, naturellement. Quand j'ai cessé de venir tous les étés en Haute-Savoie, nous avons maintenu le contact. C'était différent, mais je savais que j'avais toujours la même place dans ses pensées. Et vice-versa. Un vice-versa rassurant. Savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à vous, qui vous réserve un petit coin dans son cœur, au chaud, à l'abri de tout, c'est comme une couverture toute douce qui vous enveloppe et vous protège du froid. Ce n'était pas un abri avec Laurent. Quand il est entré dans ma vie, j'ai perdu un à un mes amis. Soit parce qu'il ne les appréciait pas, soit parce qu'ils ne me laissaient plus aucune occasion d'entretenir mon amitié pour eux. Je ne les ai pas perdus. C'est Laurent qui me les a perdus. Ça fait 4 ans que je n'ai plus donné aucune nouvelle à Alexandre. Il a bien essayé de m'appeler 1 ou 2 fois, mais un jour il est tombé sur Laurent qui lui a dit d'arrêter de m'importuner, que nous n'étions pas du même monde et qu'il ferait mieux de s'occuper de ses poissons, parce que la petite sirène était désormais à un autre, qui, lui, pouvait se payer un yacht, alors une pauvre barque de pêcheur, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est Alexandre que j'ai envie de voir, parce que je sais que je suis vraiment sa petite sirène et qu'il s'y connaît en naufrage. Il est toujours resté en contact avec la nature, à voir le jour se lever très tôt le matin, à vivre de la pêche, cette activité aussi vieille que le monde, éprouvante mais tellement essentielle. Alexandre procure de la nourriture à l'humanité. Même si cette humanité se réduit à quelques dizaines de clients, il n'empêche, c'est un bout d'humanité. J'ai besoin de cette parenthèse pour oublier le reste. Il pêche tous les jours, je le sais, il me l'a souvent dit. Quand je suis sur mon bateau, je ne suis plus de ce monde. Je suis à l'écart des hommes et ça fait du bien. Fais-moi du bien, Alexandre. Coupe-moi de l'humanité. De l'inhumanité surtout. Je ne sais pas comment il va m'accueillir. C'est acquis tout double. S'il ne veut pas de moi, je retournerai directement à l'auberge où j'ai réservé une petite chambre en arrivant. Mais quelque chose me pousse à le retrouver sans attendre. Alors j'écoute ce quelque chose. C'est peut-être Célestine. Peut-être Malou qui trouvait dommage que je me sois éloignée de lui. C'est peut-être la petite sirène. Il est 21h. Je me gare sur le trottoir en face de sa maison. Son nom est toujours sur la devanture. Il doit être là. Je vois de la lumière à travers la vitrine. Malgré la buée, je distingue une silhouette qui évolue à l'intérieur, entre le hangar et la chambre froide. Je le reconnais, même 4 ans plus tard. Je me souviens par cœur de lui, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la forme de ses mains que j'ai vu des centaines de fois saisir les filets, la pointure de ses pieds, le galbe de ses fessiers et ses biceps saillants, de près comme de loin. C'est lui. Je frappe au carreau. Il s'approche, essuie la vitre avec le revers de sa manche et y colle son visage en mettant ses mains en visière pour cacher la lumière de son atelier et voir dehors, dans l'obscurité naissante. Je me recule un peu pour ne pas lui faire peur. Je suppose que mon regard ressemble à celui du chapeauté. Je ne suis pas capable de beaucoup plus. J'entends la clé tourner dans la serrure avant qu'il n'ouvre la porte. Son sourire immédiat me rassure. Il ne m'en veut pas. Il me regarde comme s'il m'avait toujours attendu, comme s'il savait que je reviendrais un jour, à peine étonné. Il m'invite à entrer et referme la porte derrière moi. Nous nous regardons un instant. Je ne sais pas quoi lui dire. Je me sens en faute, après ces années de silence. C'est lui qui le rompt en me disant « Viens par là, toi !» tout en ouvrant ses bras pour m'y accueillir. Il porte encore ses habits de travail. Comme j'aime cette odeur. Ma madeleine à moi sent le poisson, le gasoil, le tabac froid et l'odeur légèrement âcre d'un homme au travail, qui a donné toutes les forces de son corps pour remonter les filets. Une madeleine qui me rappelle ces moments magiques passés avec lui sur le lac, à le regarder des heures entières se battre contre les éléments, mais avec cette évidence si simple, sa place était là. Je ressens la même évidence aujourd'hui. Ma place est là, dans ses bras. « Je suis heureux de te revoir », me dit-il en me caressant les cheveux doucement de ses énormes mains abîmées par l'effort. « Pardon d'avoir disparu comme ça. Merci d'être réapparu. Tu ne m'en veux pas ? Je t'en veux de le croire. J'ai pris une petite chambre à l'auberge au village. Tu viendras quand même dire bonsoir à Catherine. Le temps que nous allions nourrir les mouettes, elle aura couché les enfants. Catherine ? Les enfants ? Je me suis mariée. Nous en avons 2. Un garçon de 2 ans et demi et une fille de 6 mois. Je ne savais pas. Tu viens avec moi demain matin ? S'il te plaît, j'en ai besoin. Je sais. Il charge le seau rempli des déchets de la journée dans la voiture et nous descendons vers le port à la nuit tombante. Le bateau est là, attaché au ponton, ondulant doucement sur les vagues légères du lac. Je m'installe à l'avant et je le regarde démarrer le moteur et manœuvrer le gouvernail. Nous gagnons rapidement le large, puis il ralentit le bateau. Les mouettes volent déjà autour de nous depuis quelques dizaines de mètres. Elles savent. Leurs cris perçants et leurs trajectoires aléatoires, qui les font nous frôler parfois, donnent à la scène un côté Hitchcock, en à peine moins angoissant. À chaque poignée de carcasse de poisson que leur jette Alexandre, une nuée d'oiseaux pique dans l'eau, prêt à tout pour attraper une part du butin. La lune n'est pas pleine, mais elle éclaire déjà bien la nuit tombante et les plumes blanches des mouettes qui s'agitent autour de nous. Il finit par vider le restant du seau et redémarre le bateau en trombe, comme pour les semer. Certaines s'acharnent un moment à nous suivre, puis finalement abandonnent les unes après les autres. Quand le calme est revenu, il coupe le moteur. Je sais qu'il va falloir que je parle. On ne réapparaît pas comme une fleur sans expliquer pourquoi elle est fanée. Je suis épuisée, alors je vais à l'essentiel. Je devine son regard, parfois tourné vers moi, le plus souvent fixé sur ses bottes blanches en caoutchouc. Il ne parle pas. Que dire? Il est calme mais silencieux. Il accueille mon récit sans commentaire et sans jugement. Ça me fait un bien fou. Voilà, j'ai vidé mon seau de peine sur le bateau, comme il vient de le faire avec les carcasses de poissons dans le lac. Tous ces déchets dont on ne sait que faire. Et puis, sans un mot, nous rentrons au port. Il me raccompagne jusqu'à l'auberge. Demain 6 heures, ça te va? Parfait. Il n'y avait plus de lumière à la maison. Tu verras Catherine demain. Dors bien. Merci Alexandre. De quoi? De tout. De rien.